Chapitre 26. Le dernier Noël. Pour la première fois depuis des semaines, la porte d'entrée du palace était restée ouverte. Un grand soleil d'hiver éclairait Paris. La colonne verte au centre de la place Vendôme étincelait de givre, comme sertie de milliers d'émeraudes. Les 7 privilégiés s'étaient alignés en bas des marches de l'entrée, buste droit et main dans le dos, vêtus de leur plus belle tenue, une toque blanche pour mardi et mercredi, une blouse bleue pour lundi et jeudi, un uniforme doré pour Sam, dîme et vendredi. Sabi chatouilla le menton de Sam, espérant le dérider.
« Allez, maintenant qu'on va se quitter, vous pouvez un peu vous lâcher. J'espère au moins que vous allez nous regretter. »
Aucun des privilégiés ne broncha, mais tous regardaient fixement les 6 ados qui descendaient les marches du palace, habillés de lourdes chaussures, manteaux, écharpes et bonnets.
« Moi, en tout cas, » admit Sabi, « vous allez me manquer. On vous invitera à Versailles, promis. Et ce coup-là, c'est nous qui vous ferons à manger. »
Hakan, Zizo, Alix, Agnel et Mano confirmèrent la gorge serrée. En réalité, ils se fichaient bien du confort qu'ils abandonnaient. Mais ils avaient fini par s'attacher à ces prémats silencieux, toujours souriants et respectueux. Ils avaient eu du mal à accepter au début de leur séjour de se faire servir par des domestiques qui avaient leur âge. Mais ils avaient fini par comprendre que la plus grande peur des 7 privilégiés était de se retrouver dehors, comme les autres prémats, marqués d'une verte croix.
« Moi aussi, je serai invité. »
Jacques s'avança devant la porte d'entrée. Les ados remarquèrent son exceptionnel effort vestimentaire. Il avait abandonné l'habituel peignoir qu'il portait le matin pour un costume parfaitement taillé. Barbe rasée, cheveux coiffés, avec application, avec une raie sur le côté. Même son visage rayonnait, sans doute par l'effet d'un fond de teint que vendredi lui avait appliqué.
« Uniquement si tu débarrasses ta table et passes le balai. »
s'amusa Alix, qui désormais le tutoyait, elle aussi.
« Dans le nouveau monde qu'on va construire, il n'y aura plus d'esclaves ni de domestiques. »
Jacques éclata de rire.
« Attendez au moins que je sois mort pour construire ce monde-là. »
Il descendit une marche vers eux.
« Vous allez me manquer, mais... mes amis... »«
Toi aussi, » murmura Zizo.
Tous les 6 hochèrent une nouvelle fois la tête pour confirmer. Derrière la porte d'entrée, Croubleu les regardait, inexpressif. Impossible de deviner s'il était ému de leur départ ou si, au contraire, il ne voyait les ados que comme des proies qui s'échappaient et qu'il n'aurait plus l'occasion de dévorer.
« Salut, monsieur Yak !»
fit Sabi.
« T'étonnes pas si Dim te désobéit, je lui ai demandé de te rationner à 3 bouteilles par semaine. »
« Au revoir !» ajoutèrent Agnel et Mano.
« Attendez !»
Jacques descendit une marche supplémentaire et se tourna vers lundi. Le prémat sortit de son dos un petit paquet emballé dans un papier coloré.
« J'ai... » bafouilla Jacques, gêné. « J'ai quelques cadeaux pour vous. »
Il attrapa le paquet et le donna à Agnel.
« Pour toi d'abord, mon ado oiseau. Bon, ce n'est pas grand-chose. » Ce truc appartenait à Hugo, le fils de ma copine, avant le passage de cette saloperie de nuages. Il avait ton âge. Lui aussi avait un peu la tête dans les étoiles.
Agnel déballa son cadeau et découvrit un étrange objet, plat, très léger, surmonté de 4 petites hélices.
On appelait ça un drone, expliqua Jacques. Il fonctionne à l'énergie solaire. Je ne sais pas si la caméra tourne encore, mais... question maniabilité, c'est ce qui se faisait de plus sophistiqué. Hugo me jurait qu'il volait plus vite qu'un épervier.
Agnel laissa couler les larmes sur ses joues. Mano lui serra la main, très fort.
À toi, mon petit gitan, enchaîna rapidement Jacques pour ne pas se laisser envahir par l'émotion.
Mardi s'avança pour lui confier un autre paquet tout aussi petit. Mano découvrit une magnifique boussole en argent. L'objet, entièrement gravé de symboles anciens, étincelait.
On raconte qu'elle a appartenu à Ernest Hemingway, un écrivain qui a beaucoup fréquenté ce palace dans le monde d'avant. Mardi a passé une semaine à la stiquer. Avec ça, ton monde nouveau n'aura aucune limite sans que tu t'y perdes jamais.
Merci.
Jamais Manon n'avait tenu dans ses mains un aussi bel objet. Il aurait voulu embrasser Jacques, mais il avait déjà récupéré un nouveau cadeau des mains de Mercredi.
« À vous, Sabi. »
La loligirl s'avança, charmeuse. Jacques lui glissa entre les doigts un petit paquet cubique.
« Je crois que c'est le dernier, » précisa-t-il. « Ensuite, sa magie sera perdue pour l'éternité. Attention, il est très fragile, mais ouvrez-le, je vous en prie. »
Sabi déballa le cube avec précaution. Le carton contenait un flacon de verre, magnifiquement ouvragé. Un prénom et un chiffre étaient gravés sur le cristal. Charlène 17.
Avant le passage du nuage, expliqua Jacques, c'était le parfum le plus à la mode. L'un des plus chers aussi. Tous, évidemment, ont été perdus, brisés. Mais celui-ci, je l'ai toujours gardé. Julie, ma petite amie, le portait, elle aussi. Vous lui ressemblez beaucoup, Sabi.
La loligirl s'aspergea délicatement le cou. Une fragrance de rose mêlée d'une touche boisée plus corsée s'accrocha à sa peau. Une odeur qu'elle n'avait jamais sentie et qui lui sembla pourtant familière, même si c'était impossible.
« Je ressemble beaucoup à ta femme ?» s'étonna Sabi.
Jacques laissa filer un petit rire.
« Non, pas du tout, je me suis mal exprimé. Julie était... petite, brune, tout votre opposé. Ce que je voulais dire, c'est que vous ressemblez beaucoup à Charlène.
Charlène ? Qui est Charlène ? Jacques se contenta de passer doucement ses doigts sur la joue de Sabi. Un voile de mélancolie troublait ses yeux. Il se tourna vite vers Jeudi.
À nous deux maintenant, à Cannes. J'ai longtemps hésité.
Il fit passer un coffret de cuir rouge des mains du Prémat à celle du géant.
« Je sais que dans votre nouveau monde, ce type d'objet devrait être interdit. »
Le géant hésitait à ouvrir le coffret.
« Mais ils existent pourtant, » poursuivit Jacques. « Alors s'il y a bien quelqu'un qui peut en porter la responsabilité, c'est toi. »
Le couvercle coulissa. Akane découvrit dans son écrin de mousse rouge un revolver. Il détailla la crosse de bois foncé au reflet acajou et le canon en acier mat.
C'est un Colt Dragoon, fit Jacques. Une pièce de collection. Je ne te garantis pas son efficacité. J'espère que tu n'auras jamais à t'en servir, mais je sais aussi jusqu'où tu es prêt à aller pour protéger ce que tu aimes.
Les yeux d'Akane ne parvenaient pas à se détacher de la rangée de cartouches, minutieusement alignées dans leur compartiment de mousse. Comme pour résister à la tentation de sentir le poids de la crosse dans sa main, il referma le coffret d'un geste sec. Jacques descendit une marche supplémentaire, celle où se tenaient Alix et Zizo.
« Et toi, mon petit espion, de quoi peux-tu bien avoir besoin ?»
Il demanda à Vendredi de s'approcher. Des larmes brillaient toujours au coin des yeux de Jacques, des perles précieuses que l'adulte refusait de briser. Zizo fixait le regard humide de Jacques, aimanté.
« Tu es comme moi, n'est-ce pas, Zizo ? Ou comme je l'étais avant, plutôt, une petite souris sans peur, tiraillée par la curiosité. L'objet que je vais te confier, Zizomis, est celui auquel je tiens le plus. Il n'a jamais quitté ma poche, même quand je sortais de la station internationale pour flotter dans l'espace accroché à un fil. Tiens, c'est ton tour d'y voir dans le noir. »
La main de Zizo se referma sur le cadeau que Jacques n'avait pas pris la peine d'emballer.
Une lampe torche. Cabossée, usée,
les jointures de métal étaient presque toutes rouillées.
« Ne te fie pas aux apparences,
c'est la lampe la plus puissante qui pouvait exister. » Elle reproduit le rayonnement d'un laser et se recharge à l'énergie manuelle ou solaire. Il te faudra bien ça pour affronter... Comment dites-vous déjà ? Ah oui, l'Empire de la Mort, au plus profond de la Terre et au plus haut de la lumière, c'est bien ça, les ténèbres et l'au-delà.
Il sourit. Sam s'approchait déjà.
Il ne reste donc que toi, Majesté.
Alix s'avança d'un pas. Jacques en fit un également. Ils se tinrent à quelques centimètres l'un de l'autre.
« Ce que j'ai à te donner est un secret. un secret que tu devras garder. »
Sam sortit de sa poche une petite plaquette de plastique transparente dans laquelle une quinzaine de pilules jaunes étaient insérées. Jacques la saisit pour la remettre à Alix tout en se penchant vers l'oreille de la jeune fille. Personne ne put entendre ce que Jacques lui disait, mais un poids parut soudain tomber sur les épaules d'Alix, comme si l'ancienne reine avait vieilli de plusieurs années en quelques secondes. Elle ferma un instant les yeux, donnant l'impression d'évaluer toutes les conséquences de la responsabilité que Jacques venait de lui confier. Elle se recula en titubant. Un sourire triste barrait son visage. Elle chercha la main de Zizo sans lâcher le regard de Jacques.
« Mère, merci. »
Plus personne ne savait quoi dire. Plus personne, à part Sabi, forcément. Alors qu'il descendait les dernières marches pour déjà s'éloigner, la Loligirl se tourna vers le dernier adulte du Nouveau Monde.
« Pourquoi tu ne viens pas avec nous ? Ton arrivée ferait de l'effet lors de la veillée du sanctuaire. On devrait même pouvoir te trouver une barbe blanche et un costume rouge. »
Jacques haussa les épaules en souriant.
« Excellent, Sabi, vraiment excellent, mais c'est trop tard. Plus personne ne croit au Père Noël à 16 ans. Personne n'y a jamais cru dans votre monde, d'ailleurs. Et plus personne n'écouterait les conseils d'un vieux gâteux comme moi. Mon monde est terminé. C'est à vous de jouer. Et puis, je m'essaie de privilégier à protéger. Je vais rester là, avec mon vieil ami Croc Bleu.
Nous reviendrons, très vite, assura Zizo.
Là... La piscine va nous manquer. Et les tartines grillées de mardi?
La cave de Dîme?
Filez, leur ordonna Jacques. Filez! Prenez soin de vous. Et ne vous mettez pas trop de pression. Profitez de la vie. Si ce n'est pas vous qui construisez un monde meilleur, vos enfants et vos petits-enfants le feront. On peut détruire le monde en une seconde, mais pour le construire, il faut des milliers de générations.